sera bienvenu dans cette émission. Nord Kivu, c'est jeudi 30 mars, marque la date butoir du retrait des rebelles du M23 dans toutes les entités occupées en territoire des Masisi et Rutshuru pour laisser la place à la force régionale. Décidée lors de la réunion des chefs d'État de l'EAC à Nairobi le 9 février dernier, ce retrait devrait s'échelonner sur une période de 30 jours à partir du 28 février 2023. Cependant, sur le terrain, la situation reste confuse. Les rebelles du M23 continuent à gagner du terrain et à renforcer même leur position ces dernières semaines, en dépit d'un retrait qualifié de façade par plusieurs sources locales dans certaines entités. Ce calendrier prévoyait qu'à chaque retrait des rebelles, la zone est automatiquement contrôlée par la force régionale. Quelle lecture faire de cette situation? C'est l'objet de l'émission de ce soir. Et nous recevons le professeur Arsène Mwaka, il est professeur à l'Université de Kinshasa et chercheur au Centre d'études politiques de cette université. Bonsoir, professeur Arsène Mwaka.
Bonsoir.
Monsieur Didier Bitaki, ancien membre des groupes armés au Kivu, il est expert en désarmement et en droit international humanitaire. Bonsoir, monsieur Didier Bitaki.
Bonsoir, monsieur. Bonsoir aux auditeurs.
Professeur Dadi Salé, docteur et spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC et d'Afrique. Bonsoir, professeur Dadi Salé. Voilà, il n'est pas encore là, il nous rejoint d'ici peu. Bienvenue à tous, une fois de plus, dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Nous l'avons dit au sommaire, au Nord Kivu, ce jeudi 30 mars marque la date butoir du retrait des rebelles du M23 dans toutes les entités occupées en territoire des Masisi et Rutshuru pour laisser la place à la force régionale. Décidée lors de la réunion des chefs d'état-major de l'EAC à Nairobi le 9 février dernier, ce retrait devrait s'échelonner sur une période de 30 jours à partir du 28 février 2023. Cependant, sur le terrain, la situation reste confuse. Les rebelles du M23 continuent à gagner du terrain et à renforcer même leur position ces dernières semaines, en dépit d'un retrait qualifié de façade par plusieurs sources locales dans certaines entités. Sifa Magour pour les détails.
Ce calendrier prévoyait qu'à chaque retrait des rebelles, la zone soit automatiquement contrôlée par la force régionale. C'est ce qui explique la présence du contingent burundais à Kirolirwe et Mushaki en territoire des Masisi après le retrait du M23. À court terme, le soldat burundais devrait être déployé jusqu'à Kichanga, mais cela n'est pas encore appliqué dans la mesure où les rebelles occupent toujours Kichanga Mweso. Bien au contraire, ils ont même élargi leur zone de contrôle. En outre, les contingents kenyans, qui devraient en principe être déployés depuis Kibumba, Rumangabo, Tongo et Kishishe, n'est jusqu'ici pas encore arrivé à Tongo ni à Kishishe, des entités toujours aux mains des rebelles. Le contingent sud-soudanais n'est pas encore arrivé au Nord Kivu alors qu'il devrait se déployer concomitamment avec les Kenyans à Rumangabo. Cependant, Bunagana, Rutshuru Centre, Kiwanja et Mabenga restent occupés par les M23 alors que les militaires ougandais qui doivent être déployés dans cette région sont attendus incessamment et seraient même positionnés déjà à la frontière, à en croire plusieurs sources à Bunagana. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Merci à vous, Sifa Maguru. Professeur Arsène Mwaka, vous êtes professeur à l'Université de Kinshasa et chercheur au Centre d'études politiques de cette université. Nous sommes au jeudi 30 mars, date butoir du retrait, n'est-ce pas, du M23. On remarque que le M23 ne se retire toujours pas. Vous venez de suivre ces reportages faits par Sifa Maguru. C'est quoi votre lecture par rapport à cela, professeur Arsène Mwaka?
Oui, en fait, la situation était prévisible. Il était clair que le M23 répond à une logique habituelle dans la sous-région, qui est telle que le plus souvent, les gens préfèrent, en même temps qu'ils dialoguent, en même temps ils se battent. Et ce petit jeu de cache-cache, de souris et de chat, c'est un jeu qui a fait date. Et tout le monde pouvait s'imaginer que c'est pas sur la parole que le M23 allait se retirer. je reste convaincu qu'ils vont continuer à poser problème. Et comme peut-être il pourrait y avoir des forces extérieures qui vont devoir changer les rapports de force sur le terrain, qui penchent du côté du M23 et de ses alliés du Rwanda. Et donc, je pense que c'est à ce niveau-là que les choses peuvent évoluer. Mais tant que le rapport sont déséquilibrés et que le M23 continue très facilement à évoluer, je pense qu'il continuera à s'entêter, à distraire la communauté internationale.
Et à votre avis, à quoi peut-on s'attendre si d'ici minuit, le M23 n'a pas commencé à se retirer des positions occupées?
C'est clair qu'il ne se passera rien, puisque on les a habitués à la parole, sans action. Maintenant, nous pouvons peut-être être surpris que quelque chose d'autre soit préparé. Mais il est clair qu'à l'allure où vont les choses, ou juste les menaces, le reste ne semble pas apporter de fruits, il est clair qu'il ne se passera rien. Et que demain matin, on sera encore en train de parler, jusqu'au jour où on va devoir utiliser la force brute pour pouvoir les dégager. Mais je semble croire que seule la parole ne suffira pas, puisqu'ils sont habitués à ces jeux-là.
Voilà, vous avez dit que le M23 répond à une certaine logique. Comment peut-on comprendre cette attitude, n'est-ce pas, de ces rebelles qui procèdent par la diversion? Ils annoncent se retirer de certaines localités, mais qui, au lieu de rentrer, n'est-ce pas, dans leur position initiale, vont occuper de nouvelles localités et renforcent même leur position là où ils se trouvent. À votre avis, cette diversion cache quoi? Cette logique cache quoi?
En fait, c'est une continuité. C'est une continuité d'une situation qui a commencé depuis bien longtemps, que moi, personnellement, je suis dans les années 93, où le Rwanda a voulu être un acteur dans la situation politique congolaise. Et à partir de cette date, ils sont très intéressés à tout ce qui se passe au Congo. Ils ne veulent pas perdre le contrôle du Congo, puisque la force du Rwanda se retrouve dans la faiblesse du Congo. Tant que le Congo restera faible, le Rwanda sera fort. Et le Rwanda pourra se structurer comme un État modèle, à côté d'un État qui est à l'embout, un État qui est déchiqueté, un État qui ne peut faire face à rien. Et donc ça intéresse le Rwanda dans ce sens-là. Et du coup, la manipulation de tout ce que nous avons comme source d'insécurité, de conflits, est à son avantage. Et donc, même là où il n'y a pas de rebelles, ils seront intéressés à les créer. C'est dans ce sens que, justement, le M23 étant juste un bras séculier, ne peut que jouer à ces jeux-là. Et ça se prête bien, puisqu'il y a une sorte d'inefficacité, non seulement de l'action gouvernementale, mais surtout de l'action de la communauté internationale. Il n'y a rien qui se passe. Ce ne sont juste des sanctions verbales et parfois qui sont accompagnées de choses incroyables comme des aides qu'on leur accorde encore et ainsi de suite. Donc, tant que les données locales, nationales ne changeront pas et les attitudes et le comportement au niveau international ne changeront pas, le M23 et le Rwanda continueront à jouer à ces jeux de cache-cache et on n'avancera pas sur le plan sécuritaire.
Voilà, vous dites que c'est une logique qui s'inscrit dans une certaine continuité. Et donc, on connaissait déjà leur mode opératoire. On connaît comment ils procèdent et comment ils évoluent et à quoi tout cela aboutit. Et pourquoi, à votre avis, on n'a pas procédé autrement pour les contraindre à se retirer des localités qu'ils occupent?
C'est à quoi on s'attend. Dès lors que l'Ouganda, le Burundi, le Kenya et tous les autres États déploient des éléments sur le terrain, nous espérons que finalement, ils seront contraints, parce que c'est ce qui manque. La seule chose qui manque, c'est la contrainte, c'est la force. Et cette force pourra les amener à douter et à ne plus continuer dans le même chemin. Mais tant qu'il n'y aura rien, ils continueront à aller logique et ils continueront à avancer, puisque tout le monde sait comment, avec l'AFDL, comment les choses se sont passées. On a renié jusqu'au moment où on a pris Kinshasa et qu'on a constaté que le chef d'état-major c'était un Rwandais et tout le reste. Et donc, tant qu'ils seront sur le parcours, ils continueront à nier et ils continueront à jouer au cache-cache. Hein, mais si la force brute est là, on attendra Kagame parler, on attendra le Rwanda parler. Une fois, si ces gens sont touchés, la vérité sortira et ils pourront se déployer sur le plan diplomatique pour dire bon, voilà, on peut dégager à tel endroit, mais nous demandons ceci. Ils finiront par collaborer si la force brute est là.
Voilà, vous dites que l'élément déterminant, c'est la force, c'est cette force-là qui manque. Mais d'où viendrait cette force quand même les troupes de l'EAC sur lesquelles on comptait pour défaire, n'est-ce pas, les M23 s'ils refusaient de se retirer, lorsque même les troupes de cette communauté sous-régionale disent ne pas venir au Congo pour se battre, disent ne pas venir au Congo avec une mission offensive, d'où viendrait cette force, professeur Arsène Mouaka?
Oui, on n'envoie pas des militaires avec tenue et armes pour juste faire la parade. Je suis convaincu qu'à un moment, ils seront obligés. Je demeure convaincu qu'ils seront obligés parce qu'ils ne manqueront pas eux-mêmes d'être des cibles de ces forces-là du M23.
Merci Didier Bitaki, ancien membre des groupes armés au Kivu. Vous êtes expert en désarmement et en droit international humanitaire. Quelle est votre lecture par rapport à cette situation dans le Nord Kivu?
Merci beaucoup. Je salue d'abord le professeur Arsène Mouaka avec qui on a eu à débattre de cette question de sécurité à l'Est pendant longtemps. Et puis, il a disparu des radars. Ben, je le salue en passant. Toutefois, la question de la sécurité à l'Est de notre pays est une question que j'appellerais stratégique pour l'ensemble de la région, mais aussi pour le monde entier. Ma lecture par rapport au cessez-le-feu ou peut-être au retrait des éléments du M23, comme on l'a dit, moi, je n'accordais aucune confiance, aucun intérêt même à ces concepts-là qui ont été conçus ou décidés dans un salon politique ailleurs. Le problème se pose de manière concrète sur le terrain. Et il faut qu'on se rende compte que finalement, apparemment, les décideurs de ces retraits étaient dans ce qu'on appelle en droit international une amnésie collective. Pourquoi je l'ai dit? On parle d'un cessez-le-feu. Le cessez-le-feu s'opère entre deux forces belligérantes. C'est-à-dire il y a deux puissances belligérantes qui s'affrontent sur le terrain. Alors, vu l'intensité de la violence qui s'est produite pendant qu'ils s'affrontent, à un certain moment, soit une force neutre peut venir proposer un cessez-le-feu, soit pour des raisons humanitaires, soit pour raison d'addition de la souffrance des populations qui se trouvent en tenaille ou entre la croisée des tirs par les deux forces. C'est là où finit le mécanisme de cessez-le-feu. Cessez-le-feu, ça veut dire que vous arrêtez de tirer et vous observez une trêve qui peut-être pourra aboutir à quelque chose. Ça, c'est sur le plan pédagogique. Maintenant, le cessez-le-feu dont on parle ici a été conclu entre qui et qui? Le cessez-le-feu ne se décide pas par une puissance étrangère qui va dire arrêtez de vous battre, sinon, quand on arrête de se battre, qu'est-ce qui arrive par la suite? Alors, moi, je n'accordais aucune confiance à ce genre de déclaration. C'était une déclaration simple, mais qui n'engageait presque personne, parce que les FARDC sont engagés au combat avec le M23. Le cessez-le-feu ne peut avoir lieu, peut-être compliqué, entre les deux forces engagées, non pas les FARDC. D'un côté qui disent, nous arrêtons de nous battre, le M23 accepte d'arrêter de se battre. Alors là, on établit pratiquement la zone de confiance qu'on appelle la zone neutre, où devraient se déployer les forces internationales envoyées sur place, notamment ces forces de l'EAC, même de la MONUSCO, devraient se déployer au milieu pour séparer les deux forces au contact direct. Mais ce qui n'a pas été fait.
Se déployer au milieu, ce n'est pas ce que semblait redouter le gouvernement congolais, parce que ça s'apparenterait à une sorte de zone tampon.
Non, mais quand on parle de cessez-le-feu, c'est-à-dire on est en face d'une réalité militaire. La réalité militaire impose que lorsque vous n'avez pas vaincu l'adversaire et que vous vous retrouvez en défensive, vous serez obligé d'être tout le temps au contact. Qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? Pour arrêter la violence, on établit une zone de confiance. Et cette zone de confiance, en l'établissant en RDC, ça veut dire qu'on sépare le M23 des forces congolaises. Or, cela est impossible, le gouvernement congolais l'a refusé. Donc, ce qui allait arriver, c'est que le M23 allait avancer vers les FARDC, ou les FARDC devraient avancer vers le M23. C'est logique, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, déroger à cette règle-là de guerre suppose que, soit on décrète un cessez-le-feu unilatéral, le M23 l'a fait, en ce moment-là, on devait observer l'attitude du M23, ne pas chercher à lui dire, nous allons déployer des militaires là-bas, dans les zones où vous allez vous retirer. Ce n'est pas le cas, parce que le M23 ne l'a conclu avec personne. du côté du gouvernement. Le gouvernement n'a jamais signé un acte de cessez-le-feu. Alors, dans ce cas, on s'attendrait à quelque chose d'ultimatum qui est espéré le 30 mars en vertu de quoi ? Ça n'a pas de sens.
Et à votre avis, qu'est-ce qui aurait dû être fait en amont par la RDC, n'est-ce pas, pour éviter à notre pays cette situation que nous vivons aujourd'hui qui semble devenir un problème épineux ?
La RDC, dans un premier temps, devrait, dans un premier temps, je dis bien, organiser son système de défense, c'est-à-dire avoir des éléments, une armée combative et dissuasive, et après empêcher que des textes auxquels il est lié, qu'il a ratifié, ne puissent le tenir en étau, l'obligeant à se soumettre aux dictats extérieurs pour restaurer sa souveraineté. C'est ce que la RDC devrait faire. Mais malheureusement, dans le contexte actuel, on est lié par ce texte qui organise les organisations régionales, mais aussi on se soumet à ce que des puissances extérieures décident parce que nous nous retrouvons militairement en état de faiblesse. Et dans ce genre de situation, nous serons obligés, soit si nous voulons utiliser des mécanismes pacifiques, nous serons obligés en tant que RDC de nous mettre autour d'une table avec les M23 pour définir les possibilités d'un cessez-le-feu définitif et de leur retrait. Alors c'est en fonction de ce qui doit être décidé qu'on obtiendra cela. Si on n'est pas capable de le faire, on refuse qu'on ne peut pas le faire. On ne va pas attendre de la bonne foi du M23 sur un accord qu'il n'a pas conclu avec son belligérant. C'est-à-dire, on ne peut pas demander au M23 d'arrêter de se battre pendant qu'il n'a pas encore discuté ou convenir de cela avec la force qui lui est en présence, donc qui lui est en face. Et en conséquence, soit on reste dans ces statu quo, il n'y a pas de paix et il n'y a plus de guerre, ou soit une des forces prenne le dessus sur l'autre. C'est là où il y aura une solution. Dans les cas contraires, on continuera à tourner à rond, attendre de l'EAC qu'elle résolve le problème à l'Est, pendant que la mission même de l'EAC ne lui permet pas de se battre. Et c'est une logique, parce que la RDC faisant partie des pays régionaux qui constituent l'EAC, ne peut pas devenir un champ de bataille entre des troupes venues des pays amis qui sont censés ne pas se battre, mais plutôt amener la paix. C'est impossible. Ça aura créé une belligérance entre certains pays de la région contre d'autres. Et en conséquence, c'est la RDC qui en paiera le prix. Donc pour éviter tout cela, il faut, comme le président l'avait dit, qu'il privilégie la voie diplomatique. La voie diplomatique doit se baser sur le principe directeur qui définisse les modalités de règlement des conflits de manière pacifique. Ça ne coûte rien de recourir à l'expertise de tous ceux qui connaissent mieux comment ça se passe. Sinon, en disant, on ne veut pas des zones tampons, on veut que l'EAC se batte, qui va définir le mandat offensif de l'EAC? Ce ne sont pas les Nations Unies, ce n'est pas l'Union Africaine, c'est plutôt les pays de la région dont fait partie la même RDC. C'est plutôt le même pays dont fait partie le Rwanda qui nous agresse. Comment cela pourra fonctionner? C'est impossible. Donc, pour moi, je pense que c'est à la RDC de définir ce qu'il veut. Que veut la République démocratique du Congo dans cela? Quand il aura déterminé son objectif, c'est en ce moment-là qu'on pourra lui venir en aide, ou soit de lui dire qu'ici ça ne va pas marcher, retirez-vous, comme ça on pourra trouver une autre solution.
Que veut la RDC? On le sait, c'est officiel, la RDC, tout ce qu'elle demande, c'est que les M23 puissent se retirer des positions occupées.
Les M23 doivent se retirer des positions occupées, absolument. Mais le M23 n'a pas pris ses positions par la parole. Le M23 s'est bâti pour parvenir à occuper ces positions-là.
Merci.
Alors, si tel est le cas, il faut donc frapper le M23 et le déloger par la force.
Merci.
Si on ne peut pas le déloger par la force, il faut aller vers le M23 et discuter avec lui pour lui dire, monsieur, retirez-vous, voici ce que nous vous donnons en retour. Si tel n'est pas le cas, donc on laisse cette situation périr comme ça et personne ne trouvera des solutions.
Merci, professeur Dadis Salé. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Voilà, vous venez de nous rejoindre dans ce studio. Vous êtes docteur spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC d'Afrique. Êtes-vous surpris de voir comment la situation évolue sur le terrain en dépit de toutes les démarches sur les plans internes et internationaux, ou c'était prévisible comme on vient de le soutenir Didier Bitaki?
Oui, malheureusement, c'était prévisible. Je ne suis pas du tout surpris et on ne fait que le dire dès le départ. Je pense qu'un des grands problèmes, c'est ne pas maîtriser la situation réelle. Parce que nous avons la situation qui est donnée aux médias, n'est-ce pas? Et la situation qui semble être donnée sur des papiers et la situation réelle. La situation réelle est à regrouper dans tout ce qu'on a comme dire, non seulement de notre gouvernement, le président de la République lui-même l'a dit, et surtout, faisons attention, de la communauté internationale indirectement. Quelle est la situation réelle? C'est qu'il y a un complot international, je précise, il y a un complot international. C'est lui qui veut encore discuter sur ça, mais ça n'engage que lui. Mais franchement, on a même des députés au niveau de la France, un peu partout, et même aux États-Unis, il y a beaucoup de preuves par rapport à ces complots d'abord internationaux. Ces complots internationaux donnent maintenant des racines à un complot régional. Tout cela, c'est contre la République démocratique du Congo, et par après, nous avons maintenant un complot interne. Ça va? Et je les appelle des autorités morales, donc des gens qui nourrissent effectivement ces complots d'abord international et qui prend aussi des sources par le complot régional. Alors, ce qui fait que le vrai solution, on ne peut pas les trouver là où il y a déjà les vrais problèmes. Je pense que tout le monde est en train de bien me comprendre.
Pour professeur, si cette thèse des complots internationaux s'est confirmée aujourd'hui, quel serait l'intérêt de cette communauté internationale de voir la RDC évoluer dans cette situation de chaos?
Alors, il faut faire attention. C'est qu'un complot n'exclut pas une collaboration. Un complot ne veut pas dire qu'on prend un tout et c'est négatif. Non, ce n'est pas ça. Au niveau international, les États-Unis ont un complot contre la Russie a un complot contre les États-Unis, la Chine. C'est chaque fois. Ça s'appelle service de sécurité, CIA, etc. Parce qu'il faut que quelqu'un comprenne complot, c'est-à-dire quoi? Complot, c'est-à-dire qu'il y a des intérêts. Et chacun défend ses intérêts au détriment. Toutefois, malheureusement, que vous défendez vos intérêts au détriment de quelqu'un d'autre, ça s'appelle complot la plupart des fois. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il ne s'agit pas d'animosité. Il faut bien comprendre. Et que si vous voulez un peu la source, vous savez que même Fagnon l'avait dit, ça va, l'Afrique, le Congo, c'est la gâchette de l'Afrique. Et que vous savez très bien qu'il y a des forces, ça peut être des multinationales, ça peut être des nations, qui ne veulent pas que le Congo soit la gâchette de l'Afrique. Donc, que le Congo ne puisse jamais, je précise, décoller. Ça, c'est le départ. Parce que le fait de nier ce point fait en sorte qu'on tourne en rond comme on est en train de le voir. Alors, si ces complots existent... Non, moi je ne dis pas si. Je confirme à 100%, monsieur les journalistes, c'est lui qui fait de peur, on aura encore le temps. Le complot existe. À quel niveau? Il y a plusieurs États. Je ne dis pas que c'est nécessairement les États-Unis. Mais nous savons effectivement que même la mort de Lumumba, où est-ce que c'était qu'on comptait? Au moins ça c'est officiel, c'était à la Maison-Blanche. Et la Belgique a exécuté. Qui ne connaît pas cette histoire-là? Ça s'appelle déjà pour moi un complot. Et pour les Congolais. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avancer avec les États-Unis sur d'autres fronts. Nous parlons des minéraux. Qui ne connaît pas qu'il y a des complots? Je pense qu'on a même eu des chefs d'État. Même Sarkozy l'a dit, indirectement. Tout le monde vient piller les minéraux de la République démocratique du Congo. Mais monsieur le journaliste, c'est tout le monde qui me comprend et qui écoute. Vous pensez que le minéraux s'envole? Ça ne s'envole pas. Il y a des organisations. On ne peut pas faire envoler des coltans, des tonnes de coltans et des diamants comme ça. Il y a des organisations et des multinationales. Donc, le complot existe
bien réellement. Et qu'est-ce qui serait logique? C'est faire main basse sur les richesses de la RDC en utilisant les groupes armés ou plutôt collaborer avec la RDC de manière, n'est-ce pas, officielle, ce qui permettrait, n'est-ce pas, à ces puissances ou à ces multinationales de profiter des richesses de la RDC?
Non. Ça, c'est la théorie pure. C'est un peu comme si les gens ne vivent pas sur Terre. Ils ne vivent pas le capitalisme. C'est un peu comme si les gens ne vivent pas effectivement le monde actuel. Tant qu'on n'aura pas un Congo fort, c'est-à-dire celui qui peut avoir le minéraux qu'il pouvait acheter à 50 milliards de dollars, et il peut les avoir à 2 milliards de dollars en finançant des rebelles, qu'est-ce que vous pensez? Mais c'est ce qu'ils font depuis des années. Et effectivement, ça les arrange aussi du point de vue géostratégique. Parce que vous avez bien compris qu'avec un Congo très fort, n'est-ce pas, ça va être la gâchette de l'Afrique et exactement, nous aurons beaucoup d'entreprises en Chine, en Russie, aux États-Unis. Vous comprenez le vrai problème, hein, par rapport à l'identification d'un peu de celui qui complote contre la RDC. Tout ce monde-là n'ont pas intérêt à avoir le minéraux à des prix élevés. Absolument pas. Ce qui fait qu'effectivement, les détails du complot, on pourra en parler. Mais ici, l'essentiel, c'est de comprendre d'abord seulement qu'il y a un complot. Alors, ça prend aussi des formes au niveau régional. Au niveau régional, avec l'Eastern African Community, on comprend, comme mon prédécesseur vient de le dire, nous avons des pays qui n'ont absolument pas intérêt à ce que la République démocratique du Congo puisse avoir la paix. Mais bien sûr, ils ne peuvent jamais le dire, nous sommes quand même des grandes personnes, n'est-ce pas? Ils ne pourront jamais l'exprimer, mais au fond, ils veulent des terres.
La RDC Sarkozy est venue avec cette théorie, tout le monde a encore laissé. Au fond, les choses sont tellement connues, mais les gens ont peur de dire la vérité. Et ils s'acharnent sur des détails techniques. On a d'abord un problème stratégique, un problème structurel, un problème de fond. Tout ce petit problème de cesser les feux, de M23, franchement, ce sont des petits problèmes. Le M23 n'a jamais attaqué la République démocratique du Congo. Je pèse mes mots. Le M23 n'existe pas. Le M23, comme les gens parlent des supplétifs, n'est-ce pas? C'est mon convient quand même pour essayer de bricoler. Le M23 n'existe pas. Même en 2013, le M23 n'existait pas. Quand il y a eu retrait, les gens parlent des retraits. Donc au fond, cette confusion au niveau structurel de la compréhension de la question est malheureusement là où je voulais arriver pour finir un peu cette logique, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe pour la République démocratique du Congo? La République démocratique doit comprendre que comme il y a un complot au niveau national, international et régional, nous n'avons qu'un choix. Et le choix est simple. Si nous ne sommes pas forts, si la République démocratique du Congo n'est pas un État fort, c'est-à-dire que le complot va persister. Les gens qui peuvent piller vont continuer et on risque de saucissonner effectivement la RDC. C'est-à-dire, c'est là où je reprends ma philosophie Kujitegemea. Tomiluke la tuso sangue mosi, tuji kebela. C'est-à-dire effectivement que la République démocratique du Congo, je pense qu'aux Nations Unies, ça s'est encore dit, vous devez compter sur vous-même. Vous devez organiser votre pays.
Merci, nous allons maintenant donner l'occasion aux auditeurs de pouvoir donner leur point de vue. Professeur Arsène Mwaka, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kinshasa.
Espérant Jarbel Inouma Bayamba depuis Kinshasa. La situation sécuritaire au nord Kivu est et reste préoccupante suite au contrôle des rebelles M23 avec notamment des tueries qui occasionnent le déplacement des populations sans abri. Si le M23 n'arrive pas à respecter ce qui a été décidé de la réunion des chefs d'état-major de l'EAC à Nairobi le 19 février dernier, c'est parce qu'ils ne sont pas non plus inquiétés offensivement avec les attaques et considèrent les troupes de l'EAC faibles. Par ailleurs, nous demandons au gouvernement de la République de ne pas rester dans la distraction avec la présence des troupes de l'EAC, mais plutôt outiller et compter sur l'armée congolaise pour faire face aux rebelles qui boycottent les résolutions de temps en temps.
Professeur Arsène Mwaka.
Oui, je pense que l'auditeur n'a pas totalement tort dans ce qu'il dit, puisqu'il est clair que tous les Congolais, moi-même compris, nous souhaitons que les choses aillent dans le sens où notre armée fait face à ces rebelles. Nous tous. Mais tout le problème, c'est que moi, je suis dans les sciences sociales, j'analyse ce qu'il y a. Et je n'analyse pas ce qui devrait être, malheureusement. C'est que la réalité nous montre que sur le plan des rapports de force, on est dans la faiblesse. Et comme tout mes co-débatteurs l'ont fait, Didier Bita qui comme il l'a fait, je le salue à part ça, et le remercie. Je voudrais souligner que on est en face de quelque chose qui ne relève pas du domaine du miracle malheureusement. Donc ce n'est pas à pleine guerre, alors qu'on est malmené, que nous pouvons penser que l'armée peut se réveiller miraculeusement. Mais là où je suis tout à fait d'accord avec tout le monde, c'est de dire progressivement, on peut quand même profiter peut-être de la présence de l'EAC pour essayer de structurer les choses, essayer d'organiser, parce que des commandos, on a vu quand même, ça se forme parfois à 9 mois, hein, des forces spéciales se forment peut-être à 1 année, 2 à 3 ans. Bon, toutes ces années qu'on a passées, on aurait dû faire ce qu'il y a. Maintenant, ici, c'est le domaine des plaintes, c'est le domaine des souhaits, et malheureusement, moi, je ne pense pas que là aussi, nous puissions y perdre l'État. C'est qu'on a en face des situations telles que les amis peuvent nous aider. Maintenant, s'il s'avère que ce sont des ennemis, je pense que le gouvernement n'a qu'à faire des choix. C'est peut-être là où il faut faire, mais c'est pas la première fois qu'on est attaqué, qu'on recourt à des forces étrangères. Soit ça peut retarder le temps que nous pouvons faire face, soit ça peut nous permettre d'échanger des données, mais tout ce que nous avons connu sur le plan diplomatique est à féliciter. Il ne manque qu'une seule chose, c'est la force, et je pense que progressivement nous y arriverons.
Professeur Arsène Moaka, je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Kinshasa et chercheur au centre d'études politiques de cette université. C'est quoi l'alternative à cette situation? Vous évoquez, n'est-ce pas, la force et vous expliquez le fait qu'une armée ne se réveille pas du jour au lendemain et qu'on peut progressivement compter sur la présence des forces de l'EAC, mais on sait que ces forces sont là. On sent une certaine réticence, n'est-ce pas, de la part de ces forces pour s'engager dans des combats afin de défaire les 1-23. Face à ces constats, comment on peut développer les réflexions pour essayer d'aider la RDC, le pays, à sortir de cette situation?
Moi, je pense qu'il faut réfléchir à deux niveaux. Le premier niveau, c'est celui qui est le souhait de tout le monde, que progressivement notre armée se structure, qu'on puisse avoir des forces spéciales qui soient adaptées à ces menaces, qui n'ont trop que dire et qui se présentent de la même manière sur les mêmes lieux. Et nous, malheureusement, nous commettons les mêmes erreurs de la même manière et à différentes périodes, et parfois avec des acteurs différents, mais sur le terrain congolais. Donc, je pense qu'il y a une chose à changer, c'est de dire qu'est-ce qui doit changer, et là, il faut progressivement que les choses évoluent et qu'il y ait un peu de sérieux dans ce que nous faisons. Ça, c'est une première piste. Mais la seconde, je pense qu'il va falloir aussi continuer à explorer la possibilité de se faire aider, parce que je ne vois pas quel autre miracle peut être fait en dehors de nous-mêmes et de se faire aider. Maintenant, si on trouve que l'EAC ne nous sert à rien, on peut s'en passer. Mais moi, je suis d'avis que tout ce qui a comme ultimatum ne peut pas se faire sans qu'il y ait un autre plat pour dire s'ils n'obéissent pas, nous procéderons comme ceci. Surtout qu'on a des hommes qui sont venus en armes, en munitions et avec des tenues militaires, et des hommes qui ont été formés pour se battre. Je suis d'avis qu'ils seront obligés de se battre.
Merci, Monsieur Didier Bisaki. Vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Bukavu au sud Kivu.
C'est Gabriel Etolanga, depuis Bukavu au sud Kivu. Le retrait du M23 était de façade et cela a été dit aux nombreuses pertes en vie humaine qu'il a enregistrées. Voilà maintenant, ils sont de retour après avoir observé ce retrait qui était stratégique afin de permettre de s'organiser. La solution dans cette situation ne viendra alors ni de la communauté internationale, ni de la diplomatie, et moins encore de mutualisation des forces de l'EAC, mais bien au contraire de l'implication de toutes les couches congolaises, en commençant par le gouvernement, les FRDC, les acteurs politiques, y compris aussi ceux de l'opposition, ainsi que de la société civile. Heureusement, nous avons un nouveau ministre qui maîtrise mieux le langage des armes. Nous espérons qu'avec lui, il va essayer de faire bouger les lignes.
Didier Bitaki.
Je pense que l'auditeur n'a fait que résumer ce que je n'ai eu de cesse à conseiller au gouvernement congolais. En fait, la situation actuelle de notre pays nécessite un engagement d'abord sérieux des institutions. On ne peut pas être un pays agressé, donc un pays en guerre, et on passe son temps à discuter sur des inutiles au lieu de poser les vrais problèmes et appeler à la mobilisation de tous pour en finir.
Et c'est quoi les vrais problèmes à votre avis?
Le vrai problème, c'est la faiblesse des instruments de défense de la RDC. Il n'y en a pas deux. La diplomatie ne suit que les rapports de force sur le terrain. Quand vous êtes en état de faiblesse, il ne faut pas dire, il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne vous dire que bon, voilà, sur le plan diplomatique, nous décrétons ceci. Le cas actuel est un exemple qui illustre bien cela. L'EAC, en Angola, le président angolais, je ne sais qui, ils ont décidé qu'il y ait cessé le feu et que le M23 se retire. Mais en face du M23, est-ce qu'il y a une force qui est capable de les contraindre à ces retraits-là ou même de les imposer, soit un cessez-le-feu ou le frapper au cas où ils osaient refuser d'obéir. Voilà aujourd'hui. Le problème, c'est que lorsque le M23 constate qu'il n'y a pas une réaction de la part de la force qu'il combat, soit il décide d'abord d'observer un cessez-le-feu pour se réorganiser parce qu'ils ont connu des pertes, et par la suite il relance, tout dépend de la volonté du M23 aujourd'hui. Ça ne dépend pas de ce que le gouvernement veut ou de ce que la communauté, l'East African Community veut. Non. Alors, moi, je voudrais, par contre, interpeller les autorités de la RDC. Si, du moins,
On a besoin de restaurer l'autorité de l'État, de rétablir la paix et la sécurité à l'est du pays. Il faut qu'ils prennent le courage de demander aux forces étrangères d'abord de se retirer de la RDC. Parce que les armes qui circulent là-bas, les munitions qu'on retrouve par-ci par-là, ce sont des armes et des munitions qui sont livrées par commerce illicite par ces forces-là qui sont présentes sur le terrain. Même si on faisait partir le M23, un autre groupe va surgir, sachant qu'il sera ravitaillé de telle ou telle autre manière.
Pourtant, le professeur Arsène Mouaka, lui, pense qu'on peut mettre à profit la présence de ces forces étrangères sur le sol congolais.
Quand on les met à profit, on continue à ravitailler ou à créer de nouveaux groupes à travers la présence de ces forces étrangères-là. Parce qu'elles ne sont pas toutes de bonne foi, elles ne veulent pas de la RDC. Le commerce de minerais, le commerce illicite de minerais, les trafics, ainsi de suite, ça se passe rien qu'au nord Kivu. On n'a pas entendu parler de cela à l'Équateur. Moins encore dans les Bandundu, bien que partageant des frontières avec la Centrafrique et le Congo-Brazzaville, et ainsi de suite, et l'Angola, ça ne se passe pas là-bas. Mais ça se passe uniquement que dans les zones où il y a des forces étrangères et qui partagent, je ne sais pas, des collaborations parce qu'ils sont en contact avec toutes les milices, ils collaborent avec elles et ensuite ça déstabilise le pays. Alors les autorités congolaises devraient, en tout cas ça c'est une recommandation, insister que ces forces se retirent. Et ensuite, on a déjà recruté. L'organisation de l'armée c'est une question de volonté. Si on demande qu'on restructure cette armée ici, dans moins de 3 mois on aura déjà une armée sur place. Parce que quand on laisse les officiers affairistes continuer à demeurer impunément dans leur mafia, on permet à l'ennemi d'en profiter. C'est là où il y a le problème. Donc le nouveau ministre, ou même le gouvernement tout entier, devrait veiller à ce que cette armée soit restructurée. Et pour la restructurer, c'est une question de volonté, en engageant des gens qui sont capables de pouvoir apporter des solutions concrètes et non pas le retour à la case départ comme on en a l'habitude. Et à ce moment-là, on fera face à la rébellion et on peut être capable même d'engager une guerre contre un autre État. Ce ne sont pas les moyens qui manquent, ce ne sont pas les hommes, le matériel sont là, mais on ne veut pas, la volonté n'est pas là parce que les gens se sont évertués dans la corruption qu'il faut décourager une bonne fois pour toutes et immédiatement même.
Merci. Didier Bitaki, je rappelle que vous êtes un ancien membre des groupes armés au Kivu et vous êtes expert en désarmement et en droit international humanitaire. Vous avez évoqué dans votre première intervention, vous avez analysé la situation sur le terrain par le fait qu'il y a absence d'un accord de cessez-le-feu entre le M23 et la RDC, et que pour que le cessez-le-feu soit respecté effectivement, il faut qu'un accord soit signé entre les deux parties. Demander à ce que cet accord soit signé, est-ce que ce n'est pas une façon subtile, n'est-ce pas, de demander au gouvernement congolais de négocier avec cette rébellion, alors que vous savez que la position du gouvernement congolais, c'est qu'il ne peut pas négocier avec cette rébellion aussi longtemps que la rébellion ne s'est pas retirée des positions qu'elle occupe.
Je répète encore, merci beaucoup pour avoir rappelé cela, parce que les gens peuvent mal interpréter cette assertion que je viens d'introduire. Les règles élémentaires des négociations imposent, ok, que lorsqu'il y a conflit entre deux forces, il faut trouver le juste milieu avec la détente de la corde. Ça, c'est la philosophie de la corde étendue. Qui va détendre cette corde? C'est celui qui est au milieu, qui appelle l'un et l'autre des deux côtés pour qu'ils discutent et savoir comment est-ce qu'ils vont détendre cette corde. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, lorsque le gouvernement dit « je ne vais pas négocier », d'un côté, il ne négocie pas. De l'autre, il n'est pas capable de faire la guerre. Dans l'entretemps, il demande au M23 qui n'a pas conquis ces positions-là, par la parole, mais par la force. Il doit utiliser les armes pour occuper notre territoire. Alors le gouvernement lui demande de livrer ce territoire entre les mains de je ne sais qui l'a conquis au prix du sang. Vous voulez dire que le gouvernement doit déployer ses hommes là-bas alors qu'il n'a pas été capable de tenir ses positions. Mais écoutez, soyons sérieux. Quand on veut négocier, on dit adoptons un cessez-le-feu. Je vous rappelle qu'à Lusaka, ça a été le cas. Vital Kamerhe, qui est au gouvernement aujourd'hui, le ministre Jean-Pierre Bemba, il est au gouvernement. Moussa Nyamuis, il est au gouvernement. Tous ces trois personnages devraient se rendre auprès du président et lui dire, si nous voulons régler cette question par la voie pacifique, voici comment nous avons procédé dans le passé. Alors, on établit un cessez-le-feu parce qu'il y a des observateurs qui doivent se déployer là-bas pour faire respecter ce cessez-le-feu.
Merci.
Et c'est en ce moment-là que on sait régler le problème autour d'une table. Mais on ne veut pas négocier, on est incapable de faire la guerre, et on continue à demander au groupe, donc à cet agresseur, de se retirer des zones qu'il a déjà prises, et où il tire. Ça, c'est absurde. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on cherche.
Merci, merci, professeur Dany Salé. Vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui a nous appelé depuis la ville de Lubumbashi, dans les Haut-Katanga.
C'est David Kalonji, depuis Lubumbashi. Je trouve que notre pays, la République démocratique du Congo, par ses autorités compétentes, doit prendre les meilleures décisions de l'histoire face à cette guerre imposée par ces groupes armés d'un 23 qui continuent à présenter une persistance qui met en doute la force régionale et même aussi celle de la République démocratique du Congo. Alors, je souhaiterais que la République démocratique du Congo prenne de grandes décisions de l'histoire. La première option, d'abord, faire un dialogue final avec le groupe M23 et les pays qui est accusé d'arrière-base. Et la deuxième décision, c'est lever ou prendre l'option de l'état de guerre. Sinon, la République démocratique du Congo va paraître comme un état qui a échoué face à cette guerre.
Professeur Dany Salé.
Oui, il y a à boire et à manger, mais je pense que je suis au moins d'accord sur le fait qu'il faut une décision historique. Et cette décision historique, je la mets dans ce que j'appelle rompre le cercle vicieux d'insécurité en République démocratique du Congo. Et cela doit nous ramener à un cercle vertueux de sécurité. Et
concrètement, comment ?
Concrètement, c'est-à-dire comme on est en train de le dire, n'est-ce pas ? Si la République démocratique du Congo ne se prend pas en charge, rien ne va changer. Alors, ici, il faut maintenant savoir comment on rompt. Concrètement, si vous me posez cette question, ce n'est pas aussi compliqué que ça. Et je trouve qu'effectivement, nous avons un problème stratégique. Et c'est ça toujours le problème des pays africains, en général, et de la République démocratique du Congo. Pourquoi on reste technique ? Je dis bien, si nous étions tous d'accord que le M23 n'existe pas, il y a les Rwanda et l'Ouganda, parce que la NER l'a prouvé, n'est-ce pas, qui nous attaquent à travers des supplétifs. On serait en train de se battre ou bien de négocier contre le Rwanda une fois pour toutes. Non, monsieur le journaliste, je pense qu'il y a plusieurs solutions. Et on doit être capable de coordonner les solutions. Mais je peux proposer 2-3 pistes de solutions. Très simple. Ça va? Premièrement, comme toute nation, nous avons encore des articles de notre constitution qui n'ont jamais été utilisés. Qui a dit à tous les gens que nous sommes faibles? Je ne sais même pas. Quelqu'un veut vous faire croire qu'on est faible? Non, je félicite nos fardés qui sont en train de se battre contre plusieurs armées organisées. Ce n'est pas le M23. Notre force armée que je félicite énormément, malgré des dérapages, etc. Mais ils sont en train de se battre très fort. Il faut les renforcer. Ça, c'est sûr et certain. Et il y a des stratégies, mais je passe directement. La deuxième grande opportunité, elle est politique. Les forces armées sont, ça va, au service de qui? Au service de la population. Et pour l'instant, nous avons le chef des armées, c'est le président de la République. Donc, le monde politique doit s'organiser. Ça doit être la deuxième force. Je pense que pour l'instant, nous avons un monde politique, excusez-moi les termes, un peu faible. C'est-à-dire que les gens sont là en train de se battre pour les élections. Moi, je veux rester député, je veux être ministre, etc. Mais on ne sent pas la force politique qui se bat comme un seul homme pour défendre la République démocratique du Congo. Ça s'est passé dans toutes les nations. Quand le pays, ça va, quand le village est en train de brûler, on doit éteindre d'abord des petits conflits de rien du tout de la maison. Et on éteint. Quand le serpent entre dans une maison, n'est-ce pas? On ne peut plus continuer à se battre. Non, maman a des problèmes avec papa, avec les enfants. On chasse les serpents, on tue les serpents, on peut continuer un peu. Donc, on a jusque-là, excusez-moi les termes d'un de nos prélats, une classe politique assez médiocre, excusez-moi les mots, n'est-ce pas, qui fait en sorte qu'on ne comprend pas l'important. Et la troisième force, rapidement, qu'on doit utiliser, mais c'est la force diplomatique. Mais on ne doit plus continuer avec une diplomatie assez naïve. La quatrième force, c'est la force, exactement, de la justice. On a déjà condamné qui? La République démocratique du Congo a déjà condamné qui? Un étranger ici. Et la cinquième force, c'est la force sociale. La force où on a plus de 450 tribus et ethnies. Alors, il faut une stratégie où on ne doit pas confondre les histoires tribalo-ethniques.
Professeur Dany Salé, je rappelle que vous êtes docteur et spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC et d'Afrique. Vous semblez fustiger la faiblesse de la classe politique. Si vous étiez à la place des dirigeants actuels du pays, et qu'est-ce que vous auriez dû faire aujourd'hui?
Je vais résumer comme on est à la radio.
C'est la conclusion.
Immédiatement, à la seconde où je vous parle, je met en application l'article 63. Parce qu'une nation de la Constitution qui dit qu'on doit se défendre avec tous les moyens, etc. Vous voyez ce qui se passe par exemple en Ukraine. On a douté même aux civils des armes. D'une façon organisée, ce n'est pas n'importe quoi, n'importe comment. Ça va. On est très fort. Je mets en application l'article 86 dans moins de 48 heures. C'est-à-dire nous devons déclarer la guerre. Des autorités qui sont incapables de déclarer la guerre et pourtant nous sommes en guerre. Après dire nous sommes en guerre, mais nous ne déclarons pas la guerre et nous ne comprenons pas les conséquences. Si nous n'appliquons pas l'article 86, théoriquement, même le budget de l'armée va sortir d'où? Parce qu'il faut un budget spécial. Quand on est à l'article 86, déclaration de guerre, c'est-à-dire on arrête un peu tous ces superfuges, ça va, au programme...
Vous déclarez la guerre, mais il faut être à mesure d'assumer une telle
décision.
Bien
sûr, ne vous en faites pas. Il faut assumer, c'est là où on vous dit effectivement nous avons une faiblesse. Assumer c'est quoi? La Corée s'est battue contre les États-Unis. Qui ne s'est pas battu contre les États-Unis? Vous pensez qu'ils étaient prêts à se battre contre les États-Unis? Il faut déjà une sorte de morale. Quand vous avez des dirigeants qui pensent qu'on doit négocier, on a déjà assez négocié.
Merci professeur Arsène Mouaka, on est à la fin de l'émission, votre conclusion.
Oui, il y a un idéal congolais, c'est celui de voir nos forces se réveiller et se battre pour l'intégrité de notre territoire. Nous appelons le gouvernement à pouvoir commencer et que nous ne puissions pas être dans une sorte d'esclérose qui nous pousse pratiquement à perdre tout espoir. Mais en même temps, je voudrais demander au même gouvernement de capitaliser tout ce qui peut être possible au niveau international, comme ils l'ont fait sur le plan diplomatique. Maintenant, dans le rapport de force brute, pour essayer de changer les choses sur le terrain, avec que nous puissions espérer à une paix dans toute la RDC, puisque la formule est connue, ils entrent par l'Est et finissent à Kinshasa.
Merci, M. Didier Bitsaki. En une phrase, hein, votre conclusion, parce que nous sommes à la fin de l'émission.
Oh, en une phrase, je ne saurais, mais je vais même m'efforcer. Ce qu'il faut pour le moment, c'est que le gouvernement doit savoir ce qu'il cherche, le gouvernement congolais. C'est-à-dire, si on fait la diplomatie, on fait la diplomatie, on arrête tout, alors on respecte les règles diplomatiques. Si on veut la guerre, l'ennemi se retire de notre territoire. Ce n'est pas en les décrétant qu'on doit le faire, c'est en allant au front affronter l'ennemi avec tous les moyens de bord dont on dispose, notamment la mobilisation des jeunes qui sont éparpillés à travers la République pour appuyer l'armée et mener une offensive définitive pour bouter dehors l'ennemi. Si on n'est pas capable de faire cela, alors il faut céder aux caprices que l'ennemi impose.
Merci.
Et en ce moment-là, c'est nous qui allons perdre même la souveraineté de notre pays.
Merci, professeur Dali Salé. Une phrase.
En guise de conclusion. On doit se prendre en charge et nous négocions déjà. Vous savez, la force de la négociation, c'est se battre. Battons-nous. Un point entré.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci au professeur Arsène Mouaka, à M. Didier Bitsaki et au professeur Dadi Salé d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci aussi à Polydor Bassunga qui était à la technique avec la participation de Donna Madimba sous la supervision de Martin Sebujangwe à la présentation Guy Maté. Merci encore et une fois de plus, bonne suite de programme sur Radio Capi.